2026, 125 ans de la loi 1901. Du 29 au 5 juillet, Aligre FM célèbre et défend la liberté associative. Soyez à l'écoute sur 93.1, aligrefm.org et en DAB+.
Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité?
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs d'Aligre, nous voici revenus dans l'émission spéciale sur les libertés associatives, la défense des libertés associatives, donc, puisque Aligre consacre sa semaine thématique du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet au monde associatif. Et donc là, nous voici donc dans la deuxième volée des émissions spéciales sur les associations. Et alors hier, donc, on était avec Yannick Blanc, président de l'Institut français du monde associatif, qui nous a fait un petit peu un état des lieux, un retour sur, un peu nous décrire cette galaxie associative, tout le monde qui est une évidence à peu près pour tous les Français, mais au final, quand on y réfléchit un tout petit peu, on s'aperçoit qu'on la connaît très mal. Alors, donc, il nous a donné quelques pistes. Alors, vous pourrez réécouter l'enregistrement, mais... plus pour rappel, les chiffres donnent un peu le tournis, c'est 1 300 000 associations, c'est à peu près un Français sur 4 ou un Français sur 5 qui est adhérent à une association. Et puis si on essaye d'agréger tout ce que les associations créent comme activité, eh bien imaginez-vous que ça donne un résultat assez époustouflant. Alors on ne va pas appeler ça de chiffre d'affaires parce que ce serait assez mal à propos pour parler des associations à but non lucratif, mais ça donne quand même une surface d'activité, on va dire, de plus de 100 milliards d'euros. Alors si on comparait ça avec le CAC 40, je crois que ça nous mettrait en belle position. Mais il a aussi donné deux vérités ou contre-vérités, donc du moins qui permet de chasser quelques idées reçues. On parle souvent, on entend dire que les associations bénéficieraient de subventions, etc., etc. Bon, il nous a rappelé quand même une réalité, c'est que plus de 80% des financements des associations proviennent du monde associatif lui-même, alors que ce soit les cotisations, les services ou les dons qui sont octroyés aux associations par les particuliers et les citoyens. Donc effectivement, on est loin d'être dans un monde associatif, on va dire, sous perfusion de subventions étatiques. Le monde associatif est largement autonome et il nous a aussi donné une bonne nouvelle, c'est que le monde associatif connaît une vraie vitalité. Alors il y a c'est quelquefois un petit peu en dents de scie, mais grosso modo, en vitesse de croisière, c'est plus de 70 000 associations créées par an. Alors on ne sait pas trop combien il en meurt, mais en tout cas, il y a 70 000 associations qui se créent tous les ans, et ça c'est un signe extrêmement encourageant de la vitalité du monde associatif. Alors aujourd'hui, donc on ne va pas revenir sur l'état des lieux, on l'a fait hier donc, mais on va revenir sur l'histoire, et l'histoire on va la voir avec Jean-Baptiste Jobard, qui lui est... Bon, je vais le laisser se présenter, c'est tellement plus simple. Jean-Baptiste, alors.
Alors, donc moi, je suis salarié permanent du CAC. Mais justement, tu parlais du CAC 40, c'est le CAC tout court, là.
Voilà, et ça veut dire quoi, ton CAC,
alors, à toi? C'est le collectif des associations citoyennes.
D'accord, oui, c'est pas tout à fait la même chose,
c'est
que
même,
le CAC 40.
C'est même l'exact inverse, finalement, puisque ça rassemble des militants du monde associatif pour que, en quelque sorte, les associations puissent continuer à jouer leur rôle d'association, qui est le leur depuis 1901, c'est-à-dire depuis cette loi dont on va parler, qui consacre, en fait, la capacité à développer des projets de manière non lucrative. Et c'est là un point important, puisque c'est dans le texte de la loi, de manière non lucrative et désintéressée. Et peut-être que je pourrais expliquer ça avec Yannick Blanc, on a parlé aussi hier, mais il y a un processus contre lequel il faut lutter, qui est un processus de marchandisation du monde associatif, qui tend à dénaturer, en fait, l'action associative de plus en plus.
Mais ça, on va y revenir, parce que donc il y a quand même... c'est la partie historique, donc on va essayer de brosser un petit peu ces 125 ans de la loi 1901, mais je crois que ça a commencé bien avant, les associations. Ça n'a pas attendu la loi de 1901 pour exister, et puis même pour qu'il y ait des réglementations sur les lois, sur les associations.
Oui, oui. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant que Aligre, une radio associative, fasse une semaine spéciale pour les 125 ans de la loi de 1901. Ça permet de mettre le focus sur cette loi. Mais en fait, c'est effectivement cette loi, je pense qu'on la comprend pas bien si on revient pas sur sa genèse. Et sa genèse est un peu étrange parce que finalement, je pense que pour la comprendre, il y a une date clé. Il faut remonter à plus de 100 ans avant la loi de 1901. Il faut remonter à 1791. On s'en souvient peut-être dans nos livres d'histoire, on a peut-être entendu parler.
La loi Le Chapelier.
La loi Le Chapelier, exactement.
Demander ce que c'était que ce Chapelier quand on était sur les bancs de l'école, mais bon.
Ouais. En fait, c'est très étrange parce que cette loi Le Chapelier vient interdire factuellement et légalement de se regrouper en association. Et donc là, il y a un paradoxe au lendemain de la Révolution française qui invente finalement la notion de citoyenneté, mais qui supprime de facto la possibilité de s'organiser collectivement sur cette citoyenneté.
Alors peut-être que si on décortique un petit peu cette loi Le Chapelier et les réalités de l'époque, c'était pas forcément aux associations telles qu'on les entend aujourd'hui qu'elles s'attaquaient, mais c'était peut-être aux corporations, aux ligues de métiers qui étaient quand même, on va dire, un corset assez serré pour encadrer les professions des... pas de toute profession, et il y en a une dont notamment les métiers de bouche chacun peut comprendre que à l'époque ces corporations interdisaient à certaines professions de rôtir la viande. Il fallait certaines professions, on avait le droit que de bouillir la viande, d'autres avaient le droit de la rôtir.
Oui.
Bon, c'est d'où d'ailleurs le mot restaurant, je crois. Mais bon, donc c'est effectivement cette loi Le Chapelier est dans un tout autre contexte.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux explications principales à cette interdiction inaugurale des libertés associatives. La première, c'est plus du registre de la philosophie politique et sûrement d'une interprétation erronée des Lumières et notamment du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. L'idée qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de biais entre l'expression de la volonté populaire et la manière dont elle se traduit en loi. C'est-à-dire que finalement, les corps intermédiaires, les associations, etc., viennent biaiser, mal traduire la volonté populaire. C'est un peu ça la première idée. Mais la deuxième explication, et je trouve que c'est un peu celle que tu esquisses, on pourrait dire qu'elle est en fait un peu d'obédience marxiste. C'est-à-dire que c'est avant tout une révolution bourgeoise, la révolution de 1789. Et quelque part, il y a déjà évidemment les prémices du dogme du marché libre et non faussé qui s'instaure. Et les corporations, les regroupements viennent en fait fausser ce jeu du marché libre. Et donc c'est pour ça qu'on les voit avec une énorme méfiance. Le problème étant qu'à ce moment-là, on interdit tout. On interdit y compris les associations d'entraide et qui ne sont pas forcément des corporations dans le domaine marchand.
Mais alors si effectivement, il n'y a peut-être pas... Alors je ne sais pas, non, je ne suis pas historien, moi, je ne sais pas si il y a eu des travaux qui ont permis de remonter à des textes de loi qui auraient défini ce qu'étaient des associations, mais le fait associatif existait au préalablement.
Oui.
Que ce soit au travers de l'organisation des métiers dont on vient de parler, ou que ce soit par le fait caritatif, les congrégations religieuses qui s'occupaient quand même beaucoup, alors ça on parlait de Saint-Vincent de Paul et autres sur les bancs de l'école en même temps qu'on a appris la loi Le Chapelier, ouais. on avait aussi appris ça, qu'à ce moment-là, le côté associatif caritatif passait par les regroupements religieux. C'était une tout autre contexte. Mais le fait de s'associer, ça remonte à très loin. Est-ce que on a des traces de ce fait associatif, on va dire, dans l'Antiquité, dans les Romains, chez les Romains?
Alors, chez les Grecs, plutôt.
Chez les Grecs.
Chez les Grecs, donc les inventeurs de la démocratie, c'est pas sans lien. Il y a un livre de Jean-François Dapri, alors j'ai pas son titre exact là, mais qui en fait est un livre qui s'intéresse justement, moi le petit livre que j'ai fait commence à 1791 et le livre de Jean-François Dapri en gros c'est l'Antiquité jusqu'en 1789. Il y a tout ce que tu décris, c'est-à-dire en fait l'organisation caritative d'un certain nombre d'activités humaines, mais il y a aussi, et ça c'est intéressant je trouve, dans l'origine des associations telles qu'on les connaît aujourd'hui dans la France contemporaine, c'est aussi les sociétés savantes. Et ça, c'est intéressant parce que quand on regarde le texte de la loi de 1901, en fait, les personnes s'associent pour leur action et aussi pour leur savoir. Et je trouve que c'est intéressant de souligner ça parce que quelque part, le Chapelier, il est aussi contemporain de Condorcet, qui est aussi l'inventeur du mouvement de l'éducation populaire tel qu'on le connaît, et je trouve que c'est intéressant de relier le mouvement associatif avec l'émergence du mouvement d'éducation populaire. Comment par le savoir, on s'émancipe, par le savoir et par l'action.
Oui, ce que tu nous dis, c'est qu'au final, il y a une multitude de racines à cette histoire, et peut-être qu'elles n'ont pas toutes été démêlées ou tracées, mais si on cherche à résumer... peut-être que c'est la capacité ou le droit, ou du moins cette liberté que les gens prennent plus ou moins de manière spontanée, à se regrouper pour faire face, peut-être, face ou accompagner à un pouvoir central. Un pouvoir, donc quelque part, la capacité à s'associer, ça, c'est pour permettre de faire, contrepoids aux pouvoirs centraux, que ce soit celui de l'État, les rois ou les seigneurs locaux. Oui. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est un droit qui est presque... primordial, sûrement l'un des premiers, peut-être même avant le droit de vote.
Ben, on peut remonter à la Bible. Dans la Bible, il y a une phrase qui dit « Malheur à l'homme seul, car quand il sera tombé, il ne pourra plus se relever. » Donc en fait, il y a, on parlait du caritatif. Je pense que fondamentalement, il y a une aspiration d'entraide et de solidarité qui passe forcément par la capacité à faire collectif. Et tu parles du pouvoir central ou des pouvoirs centraux. En fait, il y a effectivement les pouvoirs politiques du roi, puis ensuite des différents régimes. Mais il y a aussi les pouvoirs économiques. Et je pense que ce qui est intéressant à noter quand on revient sur l'origine en fait, du monde associatif tel qu'on le connaît, c'est qu'au lendemain de la Révolution française, au début du 19e siècle, la situation elle est quand même caractérisée d'abord et avant tout par une misère noire. En fait, c'est très compliqué de se représenter ça, mais il n'existe pas de politique sociale à cette époque. En fait, par exemple, quand on se replonge dans Les Misérables de Victor Hugo, je pense qu'à ce moment-là, on a un bon aperçu de la manière dont l'enjeu, c'est un enjeu de survie. Et pour survivre, il faut forcément se regrouper, s'entraider, s'associer. Et en fait, ça induit toute une dimension en fait, matérielle et économique qui est très très forte. Et ça, c'est important de souligner ça parce que ça permet de bien dire que l'action associative, c'est aussi une action économique et d'entraide économique.
D'accord. Donc de toute manière, c'est essentiel de voir que c'est un pilier de notre société. C'est vrai qu'on le marginalise un petit peu. C'est vrai qu'on en entend quand même très très peu parler sur les médias ou de manière très incidente. Alors qu'on vient de... Bon, je l'ai rappelé, c'est le poids du monde associatif, c'est pas rien. Alors, bon, on va peut-être remonter l'histoire un peu plus vite. Alors, tu parlais des Misérables. C'est vrai que... Alors, donc, la loi de 1901 est écrite par... gérée, je ne sais pas comment, par Pierre Valdec-Rousseau. Mais 1848, c'était aussi un moment fort du mouvement associatif, puisque d'ailleurs, c'était le père de Valdec-Rousseau, dont j'ai oublié le prénom, qui était aussi à l'initiative du mouvement associativiste.
Oui. Alors ça, c'est important de revenir à cette révolution de 1848, parce qu'elle est fondamentale pour comprendre, en fait, l'inscription de l'émergence de l'action associative simultanément à la construction de l'édifice républicain. 1848, c'est la Deuxième République, mais c'est pas n'importe laquelle, c'est la sociale. Et en fait, c'est une tentative d'aller au bout des promesses inachevées de la Révolution de 1789 et de réaliser vraiment l'effectivité de la devise liberté, égalité, fraternité. Il y a vraiment un geste égalitariste très très fort. Il y a une phrase en 1848 qui est un des slogans qui est « Nul n'a droit au superflu tant que tout le monde n'a pas l'essentiel ». C'est ça qui guide les 48 arts. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il va y avoir l'inscription légale définitive, on va dire, de l'action associative en 1901, mais en 1848, il y a déjà de manière très très fugace, ça dure pas très longtemps, mais c'est une des premières mesures des révolutionnaires de février 1848, le droit à l'association qui est consacré en fait dans le régime politique, et c'est vraiment déterminant parce que On s'aperçoit que, là par exemple, peut-être Yannick Blanc en a parlé hier, mais on est suspecté a priori de ne pas être républicain, puisqu'on doit signer un contrat d'engagement républicain quand on est une association. Et c'est vrai que c'est très paradoxal de revenir sur cette histoire, de voir l'importance du fait associatif dans la construction de la République, et finalement que les choses se sont un petit peu évanouies avec le temps, y compris pour les raisons que tu décris. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une invisibilisation très très marquée, en fait, très très impressionnante, de l'apport des associations à la société, de l'apport politique des associations à la société.
Alors, c'est donc, on disait que les racines du monde associatif étaient multiples et pouvaient remonter très loin. Par contre, 1848, on va dire, c'est une marche vers la loi de 1901.
Complètement.
Et puis, je rappelle qu'effectivement, 1848, ça dit beaucoup de choses, non, ça dit quelque chose à beaucoup de gens. En tout cas, le roman de Hugo dit beaucoup de choses à bien des gens. Les Misérables, c'est cette révolution-là. C'est Gavroche. Peut-être que ce serait intéressant de lier un petit peu l'histoire du monde associatif à cette révolution. Mmh. Et puis je rappelle, bon, au passage, qu'il y aura au Châtelet cet automne, en octobre ou novembre, je ne sais plus, ils rejoueront la comédie des Misérables. Je trouve que le monde associatif devrait s'en saisir d'une manière ou d'une autre. Mmh. Mais bon, en attendant, on va laisser passer une petite pause musicale. Écoutez, bonjour, je vous laisse découvrir la musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien, naturellement, vous avez tous reconnu Bonjour de Rachid Taha. Et on a choisi cette musique parce que je trouve que c'est une musique qui alors, elle n'a pas forcément un rapport littéral avec le monde associatif, mais en tout cas, c'est une expression de la convivialité à la française qui exprime bien, en tout cas, ce que est, ce que veut être le monde associatif, et en tout cas, l'une des réalités de ce million, de cette myriade d'associations qui composent le monde associatif. Alors, Jean-Baptiste, comment ça s'est passé? Pourquoi Waldeck-Rousseau a fait une loi en 1901? Parce que les précédentes, alors moi j'avais fait un petit peu de recherche sur différents moteurs et puis aussi à la BNF. Quand je recherchais associations, etc., la première chose qui m'est apparue dans les archives de la BNF, dans les revues, alors ça remontait à 1884, je crois, et c'était la création, donc c'était un article de je ne sais plus trop quel journal qui nous parlait de l'association internationale des syndicats ouvriers, et donc c'était la première internationale qui était regroupée sous le terme d'association. C'est vrai qu'aujourd'hui on la mettrait plutôt sous un terme de syndicat ou de parti politique, mais en tout cas le fait associatif, c'est cette composante là aussi que ça voulait dire, c'était la liberté d'expression et de s'organiser, y compris politiquement, pour changer le monde.
Oui, mais c'est intéressant que tu fasses ce parallèle avec les syndicats, parce qu'il y a quelque chose d'assez marquant qui se passe entre le premier 19e siècle jusqu'en 1848 et le deuxième. C'est que sur le premier, on appelle ça le courant associationnisme. Et en fait, c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Il y a une aspiration politique, égalitariste, solidariste, très très forte. Et alors juste, je reviens quand même d'un mot sur la manière dont cette aspiration politique, elle est traduite, puisqu'on parlait de Victor Hugo. Victor Hugo, quand il est député en 1849, il a quand même cette phrase très très courte, mais qui marque le cap politique de ce que sont les associations. À ce moment-là, il dit « Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère ». Il dit bien, il ne dit pas « diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire », il dit « détruire ». Et on voit qu'en fait, là, il y a quand même une radicalité dans le projet politique qui est très très forte. Et à ce moment-là, les associations, l'associationnisme, c'est à la fois des moyens très pragmatiques d'entraide, mais aussi la manière dont se construisent des revendications qui sont indissociablement, on pourrait dire maintenant associatives, mais aussi politiques et syndicales. Et ce mouvement associationnisme, en fait, va ensuite être en quelque sorte disloqué, enfin, va avoir une reconnaissance légale qui va s'affirmer dans le deuxième 19e siècle, en 1884, la loi sur les syndicats. Mais aussi en 1896, la loi sur les mutuelles. Il y aura une première loi sur les coopératives et en fait 1901 sur les associations. Mais tout ça en fait procède du même creuset. C'est ça qui est très très important et très très méconnu.
Mais c'est ça, donc c'est vrai que c'est une période historique sur laquelle ce serait bon de se repencher, parce que c'était une époque où on avait de l'ambition.
Ouais.
Et aujourd'hui, quelque part, donc, je me dis, est-ce qu'on a ces ambitions-là? On a un peu l'impression qu'on est un peu fataliste aujourd'hui, un peu battu, et qu'il nous manque de grandes ambitions. J'imagine que c'est à l'époque, ça ne devait pas être plus simple de proclamer ce genre d'aspiration qu'aujourd'hui, espérer qu'on puisse avoir un monde où qu'on puisse continuer à l'habiter, qu'il y ait du partage, que les valeurs du partage prennent le dessus sur la performance. On pourrait transposer ça à une époque actuelle avec la canicule, sur ce débat sur la climatisation ou pas. Effectivement, les questions de reconstruire un projet commun.
Exactement. Mais ce projet commun, en fait, ce qu'on a perdu en 1848, c'est effectivement, je pense, une forme de radicalité qui était portée par...
C'est en 52 qu'on a perdu beaucoup de choses, quand il y a eu
encore plus, encore plus. Mais en tout cas, en juin 1848, il y a aussi la perte d'une aspiration profonde, d'une république beaucoup plus solidaire. Et en fait, ce qui se passe après, c'est qu'il y a la construction, finalement, avec la Troisième République, et ensuite, à partir de 1901 et de la loi sur les associations, de l'État social. Et évidemment, les associations vont participer pleinement à la construction de cet État social qui va devenir l'État-providence après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à ce moment-là, on voit bien que les associations ne sont pas celles qui écrivent l'histoire avec un grand H. En fait, il y a deux auteurs de l'histoire. Il y a le marché, où finalement on se dit que c'est à partir du marché qu'on va sortir, qu'on va aller vers la prospérité. Et il y a l'État qui est chargé de redistribuer en fait une partie de la richesse créée dans une vision égalitariste, mais qui n'est pas d'une égalité radicale, puisqu'on est sur une social-démocratie où finalement les associations sont là pour combler les lacunes les plus flagrantes de la redistribution des richesses.
Donc, quel est le pourquoi il y a eu une loi en 1901, sachant qu'il y avait déjà une loi sur les associations avant? Et qu'est-ce qu'elle apporte de différent?
Il y a eu une loi parce qu'en fait, j'allais dire, il fallait une loi. Il y a Jean Massé qui dit à ce moment-là, la loi se fait dans la rue. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'interdiction était intenable, les associations se sont quand même créées, même de manière informelle, même de manière bricolée. La loi est venue en fait écrire dans le marbre législatif des états de fait. Et le fait que les associations étaient déjà, par exemple, la Ligue de l'enseignement, c'est antérieur à la loi de 1901. Et donc, et c'est venu, en fait, quand même au bout d'un processus et, où il y a eu, avec la Troisième République à ce moment-là, un acte de confiance fait par les autorités publiques en direction de la société civile qui consistait à leur dire « faites des projets, monter des associations, on n'a pas droit de regard a priori sur ce que vous faites, et donc vous n'avez pas à lever le petit doigt pour nous demander l'autorisation, on vous fait confiance. » Fondamentalement, cette loi, c'est une loi de confiance, et c'est important à redire, parce que encore une fois, avec le contrat d'engagement républicain en 2021, on a tourné ces pages-là. Exactement, c'est l'inverse, en fait, on a installé de la défiance. En fait, la loi de 2021 est l'antithèse de la loi de 1901 d'une certaine manière.
Ok, bon, on va pas refaire le monde. Non, on va pas refaire l'histoire, oui. Mais le monde peut-être. La loi de 1901 entérine, en fait un état de fait et accepte d'ailleurs, comme nous disait hier, Yannick Blanc nous rappelait hier, c'est qu'il y a les associations déclarées, mais que la loi de 1901 autorise aussi les associations informelles.
Oui.
Donc, grosso modo, ça autorise le droit de se rassembler et à faire des choses ensemble,
oui.
Sans pour autant être obligé de créer une société qui se partage des bénéfices. Parce que c'est
exactement.
Ça, si j'ai bien compris dans la loi, c'est un peu une définition par défaut. C'est une association qui existe sans avoir besoin de se répartir des bénéfices.
Exactement. C'est un projet qui est acapitaliste, en quelque sorte, puisqu'il n'y a pas de capital de départ, et qui est aussi démocratique, puisque le principe, c'est que le poids qu'on a sur l'orientation de l'association, elle ne dépend pas de l'argent qu'on y met, elle dépend du fait qu'un homme égale une voix.
D'accord. Et donc, il suffit d'être deux pour créer une association.
Ouais.
Bon, ça ne fait pas beaucoup, mais ce n'est pas la réalité non plus. Je pense qu'il y a peu d'associations à deux personnes, à deux adhérents. Mais alors, bon, depuis 1901, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la France a traversé un certain nombre de... puis la France et le monde a traversé un certain nombre de soubresauts, donc si on peut qualifier comme ça les deux guerres mondiales, les crises de 1929 et autres. Est-ce que ça a laissé des traces dans l'histoire des associations?
Oui.
Est-ce que tu peux nous brosser un petit peu le paysage par grande époque?
Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant à noter dans cette histoire un peu longue, là, sur plus d'un siècle, c'est que... tu parlais des chiffres qui sont effectivement impressionnants. Hein. Tout à l'heure, 70 000 associations créées par an en France, ça fait presque 200 par jour. C'est absolument hallucinant. Mais en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Et en fait, il y a une progression exponentielle comme ça qui s'est faite en fait très très lentement. Par exemple, quand Waldeck-Rousseau crée la loi de 1901, la société civile ne se l'approprie pas tout de suite. Au départ, début 20e siècle, il y a assez peu d'associations créées. Et ce qui est intéressant quand on regarde les chiffres, c'est que il y a souvent eu une concomitance entre des mouvements sociaux très forts et des créations d'associations. Par exemple, c'est l'anniversaire en ce moment de 36. En 1936, il y a un boom des associations. Alors, évidemment, c'est en partie lié parce qu'il y a des secteurs d'activité qui qui vont émerger, se développer, le tourisme social, le loisir, la culture, l'éducation populaire à ce moment-là, etc. Mais il y a un boom. Il y a aussi un boom en 1968, par exemple. Et en fait, finalement, c'est là où on voit qu'il y a une concomitance entre le développement du mouvement associatif et le mouvement social. Le mouvement dans les années 70, 80, les mouvements écologistes et féministes, par exemple, vont être accompagnés de l'émergence d'une multitude d'associations. Et donc, ça se fait très, très progressivement. Les chiffres impressionnants que tu citais tout à l'heure, on pourrait dire aussi 1,8 million de salariés, etc. Ça se fait au fur et à mesure qu'il y a cette appropriation de cette liberté fondamentale, qui est la liberté de s'associer, mais de s'associer, on le voit, y compris pour des transformations sociales assez structurelles.
Donc ce que tu nous dis, c'est qu'à chaque fois que le monde a un soubresaut éternu ou se met en branle, en mouvement, ça génère des initiatives, oui, et des associations.
Exactement.
Et donc, de ce point de vue-là, le monde associatif est le reflet d'aspirations à l'action des citoyens, quoi.
C'est ça. C'est le vecteur, en fait, très pratique juridiquement, de l'initiative citoyenne et du fait que chacun d'entre nous a la possibilité, en fait, d'avoir prise sur le monde qui l'entoure.
Et donc, oui, c'est pas un monde de veau, comme disait cher de Gaulle. Donc, effectivement, c'est la traduction d'une France plutôt active, plutôt qu'inactive, comme diraient certains. On n'est pas là pour polémiquer, mais bon, en tout cas, ça peut casser quand même certaines idées reçues et discours ambiants. Mais c'est vrai qu'on le montre peut-être pas assez, cette vitalité du monde associatif.
Ouais. Ouais, c'est clair, y compris son poids économique d'ailleurs, même si c'est un peu piège, parce qu'il ne faut pas réduire les associations justement à l'activité économique telle qu'elle est calculée dans les indicateurs qui nous mettent aussi dans le mur, je pense au produit intérieur brut, etc. En fait, ce qui est intéressant avec l'action associative et avec la façon dont l'action associative participe à l'économie, mais en fait à la création d'une autre économie, c'est que ça permet d'ouvrir la question finalement, qu'est-ce que la richesse ? Et la richesse, elle n'est pas que celle qui se calcule, monétaire, etc. C'est beaucoup plus riche, finalement.
Mais bon, ça nous emmènerait peut-être dans une autre émission.
Qu'il y a une émission sur la monnaie après.
Donc, ils nous parleront de ces aspects-là. Effectivement, il peut y avoir une économie sans monnaie. Et le monde associatif est en partie créer des richesses. Quand on crée du service, de la transmission de culture et autres, ça ne se traduit pas forcément par un ticket, un billet, etc. Mais il y a ma mère qui essayait de me joindre tout à l'heure, mais quand elle est dans son association, elle fait de l'aide au soutien scolaire et qu'elle va aider des enfants à apprendre à lire, ça se traduit pas par de l'argent, on le saurait à la maison, mais au moins ça, c'est une vraie richesse que d'apprendre de sortir un gamin de l'illettrisme.
Mais ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que notre drame, c'est de réduire l'économie à l'économie de marché. En fait, d'un point de vue, j'allais dire, anthropologique, quand on regarde la nature humaine et comment on se débrouille entre nous, il y a plein d'échanges entre nous qui ne reposent pas du tout sur les mécanismes du marché et qui sont, alors ça renvoie aux travaux de l'économiste Carl Poliani, mais qui sont de la réciprocité. Et en fait, la réciprocité, c'est quoi ? C'est rien d'autre que le fait de marquer une interdépendance entre nous qui est complètement, enfin qui est le fait même de faire société en fait.
D'accord. Jean-Baptiste, bon, écoutez, on va laisser passer une petite pause musicale. Écoutez, je vous laisse découvrir la musique et je vous la désannonce après.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Thank you.
Eh bien, donc, c'était Hermanos Gutiérrez. Alors, bon, j'ai fait passer la musique parce que je l'aime bien, ce duo de guitaristes qui a aussi des racines suisses. Ça ne s'entend pas, mais ça, c'est bien le cas. Et puis aussi parce que dans le terme d'Hermanos, il y a tout simplement cette idée de fraternité, mais non genrée. Mmh. Et en France, on n'a pas ça. C'est vrai que c'est embêtant. Mmh. Si on pouvait avoir une fraternité, sororité qui se mélange, ouais. Ce serait quand même beaucoup plus pratique. Ouais. Mais ça nous ramène quand même, vous le comprendrez, à cette notion du monde associatif, parce que cette fraternité, bah, c'est quelque part aussi un petit peu ce que traduit le monde associatif, ce besoin de faire des liens et créer de la solidarité. Et bah, oui, fraternité, c'est quand même le troisième terme de notre devise nationale, et que sans le monde associatif, eh bien, on n'aurait pas de devise nationale complète. Donc voilà, bon, ça c'était une petite aparté, mais on va revenir sur l'histoire. Alors, Jean-Baptiste, tu nous disais que la vie dans les créations des associations se faisait un petit peu par vagues, liées au grand mouvement de l'histoire contemporaine. Alors, ceci étant, à part le Covid, le réchauffement climatique qui monte, fait qu'aujourd'hui il y a autant de vitalité dans le monde associatif? C'est une réponse à quoi cette vitalité alors?
Moi j'ai l'impression que c'est la réponse à l'apathie politique et l'impuissance politique qu'on subit avec un régime institutionnel qui est dans une impasse, et qu'en fait on voit bien que par rapport aux défis écologiques, là on est en pleine canicule, sociaux, niveau de pauvreté n'a jamais été aussi grand, etc. En fait, quelque part, il faut se mêler de ce qui nous regarde, et on ne peut pas laisser les manettes à des élus dont la légitimité est à chaque élection de plus en plus réduite. Il faut reconnaître la légitimité des acteurs de terrain. Tu citais l'exemple de ta mère et d'une action très très concrète. Il y a un moment où en fait, c'est aussi à partir de la base citoyenne que les solutions elles peuvent se construire. Donc c'est tout simplement cette aspiration-là. Et encore une fois, l'association, grâce à Waldeck Rousseau, c'est le vecteur, le véhicule hyper pratique pour faire quelque chose et s'organiser rapidement pour trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il y a quelque part un mouvement qui est un peu dramatique, là, quand on voit un peu le niveau d'entrave aux libertés associatives qu'on atteint actuellement, c'est qu'en fait, on aurait besoin de l'exact inverse, c'est-à-dire de libérer complètement les initiatives citoyennes pour faire face à la situation.
Oui, donc, alors, c'est un petit peu une analyse en creux que tu nous fais. Aujourd'hui, on voit poindre la réponse, mais c'est vrai que ce n'est pas encore très structuré. Mais alors, donc, effectivement, on crée beaucoup d'associations, mais est-ce qu'il y a aussi une montée des adhésions ?
Oui, alors, en fait, oui, il y a aussi quand même une mutation de la manière dont il y a des engagements associatifs qui se construisent, notamment dans les plus jeunes générations. Ça, c'est assez documenté, qui sont moins attachés à une association dans laquelle ils vont finalement faire un peu tout leur parcours d'engagement. Et il y a aussi quand même quelque chose qui est marquant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en tout cas, chez les plus jeunes, ce qu'on note souvent, c'est des interrogations qu'il n'y avait pas avant sur l'engagement associatif. Très, très concrètement, de se demander si ça vaut le coup, alors je pense à des mouvements autour du mouvement climat, etc., de créer une association si, en fait, l'association est de plus en plus contrainte. Alors contrainte par une lourdeur administrative, bureaucratique, mais aussi contrainte par un cadre légal. On parlait du contrat d'engagement républicain qui est de plus en plus dur. Et finalement, il y a plein d'associations informelles qui se créent aussi, qui font partie en fait du mouvement associatif au sens large, de l'associationnisme du 21e siècle, mais qui ne sont pas du tout dans les chiffres et qui passent sous les radars. Donc les chiffres montrent une grande vitalité citoyenne, mais en fait, il faut se rendre compte qu'il y a aussi beaucoup d'engagements informels. On pense au soulèvement de la terre, par exemple, ou des mouvements comme ça, où finalement les jeunes se disent que l'association doit être réinventée, y compris qu'on peut s'engager sans que ça soit aussi structuré que les schémas habituels, quoi.
Oui, mais bon, c'est pas non plus excessivement, c'est pas un carcan terrible, hein, le statut d'une association.
Non.
La déclarer en préfecture, faut faire une élection à peu près selon les statuts, faut faire nager tous les ans. Mais
ouais.
Bon.
En fait, le problème, c'est que c'est pas un carcan terrible quand on connaît un peu, mais quand on voit de l'extérieur certains fonctionnements associatifs, ça peut apparaître comme un carcan, parce qu'il y a des fonctionnements qui sont des fois très très pyramidaux, hiérarchiques, etc., qui ne donnent pas forcément envie, notamment aux plus jeunes générations. Alors qu'en fait, justement, ce qui est fort avec la loi de 1901, c'est que le texte est très court et en fait, il permet beaucoup de choses. Et y compris, il permet de s'organiser et d'avoir un fonctionnement interne le plus démocratique et le plus horizontal possible. Après, il y a des fonctionnements qui ont été institués dans les relations avec les banques, avec la diffusion de statuts types dans les préfectures, etc. Mais on n'est pas du tout, en fait, prisonnier d'un fonctionnement qui serait hiérarchique, pyramidal, avec, les chiffres le montrent, souvent plutôt une empreinte encore patriarcale. Hein, dans le monde associatif, les présidents d'associations sont majoritairement des hommes, plus de 64 ans, de CSP+.
Oui, ça effectivement. Mais bon, peut-être que la réponse qu'on pourrait donner aux jeunes générations, c'est si vous trouvez que les assos sont un peu vieilles, un peu lourdes, ben, n'hésitez pas à en créer de nouvelles. Quoi.
Puis, ouais, ou à rentrer dedans et à changer de l'intérieur.
Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on peut aussi créer de nouvelles associations, ce qui n'empêche pas après de se regrouper, de voir les familles, etc. Mais alors la question que je me pose aussi, alors je ne sais pas si c'est un historien comme toi qui peut nous y répondre, mais est-ce qu'il y a une spécificité française au monde associatif ? Parce que le monde associatif de français est un petit peu différent du monde, ou c'est des équivalents, ou c'est à peu près pareil dans tous les pays
Ouais.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ouais. Alors, historien amateur, hein, je précise. voilà. Oui, en fait, il y a quand même une spécificité française. Les chiffres impressionnants qu'on citait tout à l'heure, presque 200 associations créées par jour, etc., 70 000 par an, en fait, c'est quand même un record mondial. Et en fait, on ne retrouve pas exactement les mêmes traditions de regroupement citoyen dans d'autres pays. Par exemple, en Italie, il y a beaucoup plus l'empreinte des coopératives. Voilà. En Belgique, c'est encore un petit peu différent. Ça ça renvoie à des constructions historiques, ce qu'on appelle la piliarisation en Belgique, qui est complètement différente, avec comme il y avait un État faible aussi, avec une société civile très 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 organisée. Donc il y a quand même une assez grande spécificité française, y compris par rapport au cadre légal européen. Et ça, c'est important parce que ça permet de pointer un danger qui plane sur le monde associatif français, qui est la façon dont le cadre européen tend à s'imposer de plus en plus. Et c'est pas du tout la même manière de définir des activités d'intérêt général, c'est beaucoup plus restrictif. Et ce qu'on définit comme intérêt général en France, c'est encore relativement large, mais au niveau européen, ce qui prédomine, c'est quand même justement le jeu de la concurrence, le marché unique. Et dans ce marché unique, il y a un acteur unique, c'est l'entreprise. Et donc on tend à réduire quand même les associations à des entreprises associatives, à des acteurs économiques en concurrence avec les entreprises dans le cadre européen. Et c'est important parce que ça participe de cette marchandisation, du fait qu'on est toujours poussé plus, de plus en plus vers le marché, et que la différence entre les associations et les entreprises tend à s'effacer toujours plus.
D'accord, oui, donc ça effectivement c'est un risque d'étouffement au final.
Ouais, exactement.
Alors il y a ce risque-là qui peut venir de l'Europe, donc une espèce de tendance, donc du libéralisme qui grignote, alors que effectivement le fait associatif est une forme quelque part de résistance au consumérisme, à outrance et d'avoir d'autres valeurs que celle de l'argent. Mais en France, on voit aussi apparaître une restriction des libertés associatives. Je crois que c'est l'Observatoire des libertés associatives qui est à Grenoble. Bon, le site est accessible dans toute la France et dans le monde entier, bien évidemment, mais qui recensait 159 procédures, bâillons et autres restrictions associatives actuellement en cours.
Oui.
Je découvre, 159 c'est important, bon, ça en fait un peu plus d'une et demie par département. C'est pas non plus un raz-de-marée.
Ouais.
Mais est-ce que c'est nouveau ? C'est existé avant ? C'est quoi ce phénomène ?
Alors, ça existait avant, mais en fait, on a participé à la création de cet observatoire parce que le phénomène s'intensifiait. Et il s'est intensifié plus précisément au mi-temps des années 2010. C'est à ce moment-là qu'on a vu des premiers signaux faibles apparaître. Par exemple, moi, je pense au fait qu'on s'était inquiété de voir un militant associatif, c'est des Amis de la Terre, arrêté préventivement, je dis bien préventivement, avant la COP21. Donc, on était déjà sur cette première phase de bascule, et en fait on a vu de plus en plus des associations associatives entravées, et c'est pour ça qu'on a voulu documenter ce phénomène-là. Les 159 cas, c'est vraiment la phase émergée d'un iceberg avec en réalité beaucoup plus de cas. Ce qu'on a voulu, c'est creuser ces cas-là pour montrer que c'était un problème systémique, c'est-à-dire que ça touchait tous les secteurs d'activité et ça touchait tous les types d'associations en zone rurale, zone urbaine, etc. Et aussi ça toucher tous les bords politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a été aussi chercher des cas pour montrer que c'était un phénomène très, 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 très généralisé. Et on a fait une typologie, en fait, à ce moment-là, avec l'Observatoire des libertés associatives, sur le premier rapport qu'on a sorti en 2020, qui est intéressante parce qu'elle tient encore la route. On a décrit quatre types d'entraves. Le premier niveau, c'est les entraves qu'on appelle de disqualification ou discursive ou de délégitimation. Par exemple, quand on parle d'écoterrorisme, il y a le mot terrorisme dedans.
Oui, quand même, oui.
Donc c'est où les associations complices de passeurs, etc. C'est toute cette petite musique qui prépare le terrain à des entraves qui s'ensuivent beaucoup plus dures, des entraves matérielles, coupe de privation de locaux, etc., puis coupe de subvention, sanctions, et puis après des attaques plus avec l'ordre judiciaire ou policière, comme c'est le cas à Briançon, à Calais, à Bure, etc. Donc il y a un niveau de répression qui s'est accru, qu'on documente avec l'Observatoire des libertés associatives, mais qui surtout crée un phénomène d'autocensure.
Oui. Ouais. Alors, donc on pourrait y consacrer une émission à part entière. D'ailleurs, dans les prochaines arènes de l'écologie, on parlera de ces questions-là. Mais là, juste pour terminer, alors je ne vais pas te laisser très longtemps, deux minutes, pas plus, parce que c'est un exercice un peu particulier. Est-ce que tu peux nous faire un peu d'histoire-fiction et nous dire quelle est la place que le monde associatif va pouvoir tenir dans les prochaines échéances politiques en France? Et naturellement, j'imagine que tu auras compris que je faisais allusion aux élections présidentielles.
Bien sûr. Mais en fait, alors là, il y a deux options. Soit je fais une dystopie, soit je fais une utopie. Je vais plutôt faire une utopie parce qu'il y a une phrase qui nous guide beaucoup, qui est une phrase de Daniel Tanuro. C'est le titre de son livre. Il dit « Il est trop tard pour être pessimiste ».
D'accord. On est condamné à l'optimisme. Voilà,
exactement. En fait, l'utopie, ça serait que de la même manière qu'à l'été 2024, il y a eu une très très forte mobilisation du monde associatif et de la société civile de manière générale, les syndicats, etc., pour éviter une bascule dans un régime autoritaire avec le RN à Matignon, etc. De la même manière, on pourrait espérer qu'il se produise la même chose, en fait, sur l'amont de cette élection présidentielle et qu'on évite le pire. Éviter le pire, ça voudrait dire aussi que les responsables politiques soient plus à l'écoute de la manière dont les enseignements qu'on tire des actions associatives de terrain permettent de tracer des lignes directrices de politique publique dans plein de domaines, petite enfance, numérique, culture, etc., etc., et qu'ils soient plus à l'écoute et que tout ça, en fait, permette de déboucher sur un toilettage de la loi de 1901, puisqu'on en parlait. Ce toilettage, il pourrait tout à fait s'inspirer d'un décret belge sur le financement de l'éducation permanente qui permet en fait de financer des contre-pouvoirs et l'analyse critique de la société, c'est-à-dire faire des associations l'endroit où s'exerce une citoyenneté qui est capable de dire là ça va pas parce qu'on n'est pas assez, on va pas assez loin dans l'effectivité des droits humains fondamentaux et donc comme ça va pas il faudrait trouver telle et telle solution qu'on a sous le coude.
Bon, eh ben écoute Jean-Baptiste, merci. On pourrait naturellement continuer à débattre, mais on va être l'horloge nous rattrape. Eh bien, on va vous souhaiter à tous une excellente semaine et à l'écoute d'Aligre FM et notamment sur ce programme inédit sur la semaine des libertés associatives et la défense des associations. Et puis, j'espère aussi l'impulsion du réveil associatif et citoyen. Ce serait quand même génial qu'on mette un peu les pieds dans le plat. Bon, eh bien, écoutez, bonne semaine à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.